Vous avez de la chance, c'est jour de visite aujourd'hui. Ah. Monsieur Lebrun, que voici, vous accompagnera.
La passion selon Séville.
Depuis le dimanche des Rameaux, l'Espagne tout entière a les yeux tournés vers Séville. J'ai vu au milieu des palmiers géants, des magnolias blancs, des bougainvilliers violets et des orangers qui ployaient sous les fruits, l'Alcazar et la Giralda, le minaret mort et l'immense cathédrale qui domine la ville comme une montagne de pierre. Passer la Semaine Sainte à Séville, pour n'importe quel Espagnol, c'est à la fois remplir ses devoirs religieux et aussi assister à une fête passionnée et aussi violente qu'une corrida de toros.
Chaque année, les images de religion se prêtent au rite de la Semaine Sainte. Les Sévillans sont curieux d'admirer les atours dans lesquels les statues réapparaissent et ravis d'applaudir ceux qui les portent et les accompagnent. Même le vendredi saint, commémoration de la Passion du Christ, l'atmosphère ne peut être triste. Le deuil est toujours ambigu à Séville et a fortiori les jours qui vont suivre. Curieusement, les Sévillans négligent la messe de la résurrection. En lieu et place, ils ont introduit leurs pratiques passablement hétérodoxes qui se poursuivent au-delà de la corrida et de la feria de Pâques avec une Pentecôte et une fête de Dieu très très singulière, comme si un récit parallèle se tressait avec le récit catholique. On se gardera de vouloir démêler les origines archaïques de ces rituels. On tentera ici une interprétation qui, depuis le chemin de croix, ouvrira des perspectives sur la psychanalyse. Ce n'est pas un jeu gratuit. Ce long cycle dit ce qu'est Séville et au-delà l'Andalousie. 1 million de personnes, en effet, rejoignent la ville pour la Semaine Sainte, autant peut-être dans le village des Marais ou à la Pentecôte, les hommes se disputent la Vierge du Rocío, emblème de l'autonomie régionale. Ce sont des journées dont l'énergie, en outre, se démultiplie à travers les moyens de communication contemporains, jusque dans les réseaux sociaux. Car, désormais, les images de religion tweetent et il faut les admirer derrière un mur de téléphone portable.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Antoinette Molinier, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Qui cette semaine a regardé la télévision, les images de la Semaine Sainte sur la chaîne ABC, le journal conservateur espagnol. Vous avez regretté d'ailleurs l'introduction d'images supplémentaires inutiles.
Oh, l'introduction intempestive d'images de publicité où désormais on voit le crucifié sanglant au milieu des pizzas qu'on peut manger dans tel ou tel bistrot.
Mais vous avez été sur place peut-être pendant une dizaine d'années et puis vous êtes de famille andalouse. Vous faisiez l'aller-retour, vous expliquez ça dans le livre que vous venez de faire paraître, La Passion selon Séville aux éditions du CNRS, entre les Andes, le Pérou, la Bolivie et Séville. D'ailleurs, non sans faire des rapports entre les uns et les autres, les Andins et les Espagnols.
Oui, je suis venue curieusement à l'Espagne de l'origine pour moi, à travers les Indiens des Andes, c'est-à-dire que j'ai essayé de comprendre comment les institutions, les croyances, les mythes d'origine espagnole, d'origine ibérique sont venus se mélanger, s'hybrider au contact de la culture indigène. Et donc, peu à peu, je suis passée des Andes à l'Espagne dans mon anthropologie.
Oui, mais il faut dire quand même que les pratiques des Andins peuvent être plus respectueuses du dogme catholique que les pratiques des Sévillans.
Oui, absolument. J'ai été très étonnée justement de constater que à certains égards, les Andalous des pratiques religieuses sont plus idolâtres, souvent, que les Indiens vers lesquels on avait dirigé tant de missionnaires pour extirper leur idolâtrie.
Dites-moi, on ne va pas faire d'histoire, parce que votre démarche est celle d'une ethnologue et puis d'une participante. Au bout d'un moment, d'ailleurs, on ne sait plus si on travaille ou si on ne travaille pas quand on participe à la Semaine Sainte.
Ah, c'est un tel plaisir, cette participation à la Semaine Sainte. C'est un travail plaisant.
Mais
et
si vous
un
voulez,
plaisir laborieux aussi.
Ça va être une émission brûlante, on peut quand même tisonner les cendres de l'histoire. Je voudrais que vous nous disiez en quoi l'époque de la contre-réforme catholique qui a exalté les images a peut-être été un tournant dans l'histoire longue de la Semaine Sainte, qui a des origines d'ailleurs sans doute pré-chrétiennes. Qu'est-ce qui s'est passé au moment du baroque?
Oui, alors au moment du baroque, il s'est passé quelque chose de très important, dû essentiellement à la contre-réforme. Vous savez que les images que l'on voit au cours de ces processions de Semaine Sainte ont une origine origine d'abord dans, au XIIe, XIIIe siècle avec le théâtre de la Passion, c'est-à-dire les scènes de la Passion, les scènes des évangiles qu'on interprétait à l'intérieur des églises. Ce théâtre a été interdit et très vite, au moment de la contre-réforme et avec le rayonnement du baroque, le rayonnement artistique du baroque, s'est développée une vie, si l'on peut dire, une sorte de vie insufflée à ces images, à travers qui a profité finalement de tout le rayonnement, de le caractère explosif du baroque pour donner vie aux images. Et surtout, il y a quelque chose qui s'est produit à ce moment-là qui était très important au moment du baroque, c'est l'éloignement progressif des scènes de la Passion telles que les rapportent les évangiles, avec le scénario que nous connaissons, ce que j'appelle le mythe par rapport au rite, n'est-ce pas, comme nous allons le voir, et la séparation progressive des deux personnages essentiels qui sont d'une part la douloureuse, la mère de Jésus, et d'autre part le crucifié, qui peu à peu se sont retrouvés non plus dans des scènes des évangiles sur un même trône, avec un scénario tout à fait orthodoxe, mais séparé en deux trônes différents. Et alors là, ça pouvait donner lieu, n'est-ce pas, à des fantasmes de Sévillan que nous allons voir.
Oui, parce que je sens qu'on va parler de psychanalyste tôt ou tard dans cette émission avec vous, Antoinette Molinier. Les vierges, elles sont nombreuses. Les douloureuses ont chacune un territoire de grâce qu'elles fédèrent. Elles sont servies par des confréries. Je vous propose d'écouter, ça va être une découverte pour vous, j'espère profitable, un reportage qui va donner son unité de lieu et de temps à cette émission qui date de 1949 et qui est signée Clara Candiani. Clara Candiani, c'était celle qui faisait l'émission Les Français donnent aux Français tous les jours de 1947 à 1961 sur la Radio Nationale, puis à France Inter. Elle connaissait bien l'Espagne pour avoir aidé beaucoup les réfugiés républicains espagnols à la fin des années 1930. Et ici, on n'est pas si loin de la guerre civile. On est en 1949, les vierges ont participé aussi à la guerre civile. Celle qu'on va voir surgir, il a fallu la dissimuler au moment des incendies des églises au début de la guerre civile.
Oui, la Virgen, la Macarena qui vient.
Ah, bien. Oui, ces clameurs, cette joie, ces visages transfigurés par l'attente, c'est l'annonce de l'arrivée de la Vierge de la Macarena. La Macarena est précédée de ses confréries, les plus somptueuses de tous ces villes. Jadis, elle était constituée par tous les horticulteurs du Guadalquivir et les jardiniers du quartier de la Macarena. Maintenant, presque tous les toreros s'en font partie. Les pénitents avancent, ils avancent dans un désordre incroyable. Ils sont sortis de leur église à 1 h après minuit. Seulement la journée qui précède la procession est longue. Le soleil est dur, il fait aussi soif que chaud. Alors les Macarenos ont plus chaud et l'ordre de la procession se ressent visiblement de leur libation. Leur costume est splendide. Une longue soutane blanche de drap fin, cape immense de même couleur, cagoule de velours vert à blason d'or, gants blancs. Chacun porte une canne d'argent ciselée, d'une main, de l'autre le lourd cierge. Puis alors il y a de tout petits enfants. J'en ai vu plusieurs qui n'avaient pas plus de 3 ans. Un Macarena m'a dit tout à l'heure, très fier, l'année prochaine mon fils viendra et depuis l'âge de 6 mois il est inscrit dans la cofradia. C'est vraiment curieux, tous ces petits enfants à moitié aveuglés par la cagoule avec cette longue cape et cette soutane de drap blanc. Ils doivent étouffer de chaleur là-dessus. Il est presque 5 h du matin et leur pas est à peine hésitant. Ils s'appuient martialement sur leur canne d'argent. Ils sont dispensés du cierge, je pense. Je n'en vois aucun. Tiens, en voilà un qui a l'air bien fatigué. Il a relevé sa cagoule, il est blond, il a les traits un peu tirés, il donne la main à un pénitent, son père peut-être. Donc, je vous l'ai dit, il est près de 5 h du matin et la procession a quitté l'église à 1 h. Enfin, voici en face de moi, arrivée à ma hauteur, la Vierge à Macarena, qui, comme toutes les jeunes femmes, s'est fait attendre. Les Macarenos mettent leur coquetterie à aller lentement, à s'arrêter souvent. La Vierge à Macarena, dont tout Séville est amoureux, évoque beaucoup plus pour moi, je dois l'avouer, pour moi française en tout cas, l'image d'une jolie reine comblée que celle de la mère de cette douleur, celle de la mère de Jésus.
Remarque judicieuse de Clara Candiani et qui rejoint vos observations, Antoinette Molinier. C'est une jeune femme sensuelle dont Séville est amoureux.
Oui, en aucun cas la douloureuse, et en particulier Macarena, n'est la mère d'un homme d'une trentaine d'années. C'est une jeune fille ravissante, entourée de fleurs, de cierges, d'encens, d'une sensualité tout à fait extraordinaire, qui est donnée à la fois par le scintillement des cierges dans le cristal, par les larmes de diamants qui sillonnent son visage, par les fleurs, et puis surtout par la musique. La musique qui suit, qui entraîne la douloureuse, Sévillane, pas seulement Macarena, est une musique de triomphe et de sensualité, souvent proche du pasodoble. On a envie de danser avec elle, et les hommes ne se privent pas de toutes sortes de compliments, d'exalter sa beauté de manière parfois extrêmement précise.
Vous parlez de son âge supposé, qui est celui d'une fiancée. Et alors, le crucifié? Vous le trouvez bien vieux. C'est sans doute le poids de ses souffrances.
Oui, alors autant la douloureuse est jeune, autant le supplicié, que l'on appelle d'ailleurs Nuestro Padre Jesús, notre Père Jésus, est vieilli par les souffrances, et mais surtout par les sculpteurs du baroque, hein, des gens comme Montagnès qui ont sculpté un Notre Père Jésus quand même assez vieilli. Et tout ça donne évidemment des sentiments extrêmement ambivalents. Ambivalence qui est présente en particulier, je vous le dirai, dans le sourire de Macarena. Macarena est une vierge éplorée avec un poignard planté sur le sein. Elle a des émeraudes qui vibrent sur sa poitrine, des émeraudes qui lui ont été offertes par Joselito, le grand matador. Et elle a des larmes, comme je vous disais, des larmes de diamant. Et tout le monde vous fera le commentaire suivant. On ne sait pas très bien si elle sourit ou si elle pleure. Elle a un profil qui sourit et un profil qui pleure. Et selon la façon dont vous la regardez, vous pouvez penser l'un ou l'autre. Et c'est
surtout
le propre de toutes
applaudie.
Les douloureuses. Elle est triomphalement applaudie.
Qu'elle est belle. Putain, cette année, qu'elle est belle. Je vous cite, madame.
Absolument,
Olivier.
Oui.
On va reprendre, si vous le voulez bien, un air qui convient mieux à la journée où nous sommes. 1949, Clara Candiani de Rochef, vous parliez de notre Père Jésus du grand pouvoir. Elle juge très singulière la procession qui accompagne le crucifié.
Une autre procession débouche en ce moment sur la place. Le Christ du grand poder, du grand pouvoir, dont l'image est ici partout, aussi bien au-dessus du comptoir du café que dans les couvents, va passer par ici dans quelques secondes. Cette confrérie de Jésus du grand pouvoir est une des plus anciennes. Elle a été fondée, je crois, en 1430 par les ducs de Médine-Sidonie. Voici le Christ, il s'avance, la tête penchée, courbée sous le poids de la croix. Il semble marcher, tout son corps étendu dans un suprême effort. Jésus ici n'est plus qu'un homme accablé du poids de sa croix qui porte toute la douleur du monde sur ses épaules, qui est venu sauver les hommes et que les hommes ont renié. 50 hommes portent le passeau dissimulé dans la carcasse de bois en juponnet de velours sombre. Et leur pas est si lent que la tunique violette du drap du Christ ondule doucement, comme si vraiment il marchait. Son genou pointe, tremble même sous l'étoffe légère. Il avance, précédé et suivi de sa confrérie, la plus puissante de ses villes, la plus réellement pieuse aussi et respectée de ses villes. Une double file interminable d'hommes vêtus de satin noir, les pieds nus pour la plupart, ployant sous la lourde croix de bois, une ceinture de paille tressée, sorte de large corselet, leur sein les reins. La cagoule noire, pointue, immense, laisse à peine voir les yeux. Rien ne laisse deviner leurs conditions sociales. Rien sinon leurs mains nues. Il me semble voir ici plus de mains fines que de mains calleuses. Sans exception, tous les pieds nus sont soignés pourtant. D'autres pénitents suivent, un chapelet à la main, un gros cierge de cire emboîté dans une sorte d'anse qu'ils portent dans leur ceinture de paille. Un silence absolu règne entre eux. C'est de beaucoup la procession la plus imposante, la plus émouvante que j'ai vue jusqu'ici. C'est une paysanne très vieille qui était à côté de moi qui chante. Elle est toute petite, la peau tannée, ravinée, comme tailladée. Son mari, un paysan, se tient juste derrière elle. Le Christ a passé, la paysanne est rentrée de la foule. Je m'explique en regardant ce Christ revêtu de sa tunique sombre, violette, pourquoi j'ai vu tant de femmes à Séville portant une robe violette de coupe simple et ceinte d'un cordon jaune comme la tunique du Christ. Ce sont des femmes qui se sont vouées à Jésus del Gran Poder.
Je regarde autour de moi cette foule agglutinée sur le passage de cette procession. Vraiment, elle ne ressemble pas à celle des autres processions. Les visages sont tendus, comme hallucinés par une émotion sacrée. Les gens regardent, prient. Près de moi, une femme dit, les yeux pleins de larmes, en considérant le Christ, comme il a l'air de souffrir.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Vendredi Saint à Séville avec Antoinette Molinier qui publie aux éditions du CNRS La Passion selon Séville. Vous avez entendu Clara Candiani qui a une dilection pour les humbles. Elle enregistre une saeta d'une femme qui surgit de la foule, qui est une humble paysanne. Les chants qui se croisent pendant la Semaine Sainte peuvent venir aussi bien de la rue que des balcons les plus nobles.
Oui, les saetas, vous savez que le mot saeta signifie flèche en vieil espagnol, et c'est vraiment, ce sont des traits d'union, ces flèches entre les chanteurs qui représentent la foule et les divinités auxquelles ils s'adressent. Et effectivement, on a des saetas qui viennent de la rue, devant lesquels et d'autre part des saetas qui viennent des balcons, généralement des balcons prestigieux de la noblesse sévillane, et entre lesquels il y a des hiérarchies, et les costaleros, les porteurs des vierges, leur chef doit juger si le balcon est assez élégant et prestigieux pour que une vierge comme Macarena, par exemple, s'arrête pour entendre la saeta. La saeta est quelque, c'est pas seulement un chant de souffrance, comme Madame Candiani l'a dit tout à l'heure, c'est en même temps un chant d'une extrême sensualité. Dans le cas de Gran Poder, la saeta que nous avons entendue tout à l'heure, il s'agit justement de célébrer, d'exalter la souffrance de Jésus, mais dans le cas des vierges, la sensualité du chant exalte la beauté de la douloureuse, et on peut dire vraiment que la saeta, d'une certaine manière, est une sorte de gémissement érotico-religieux.
Est-ce que je peux m'arrêter au mot divinité que vous venez d'employer ? Le Grand Poder, vous racontez une jolie histoire. Un garagiste le priait de sauver sa femme qui allait mourir. La femme meurt, le garagiste boude et dit non, moi je vais plus le voir. S'il veut me voir, il a qu'à s'arrêter chez moi. Et un jour de pluie, il a plu beaucoup au début de la Semaine Sainte. Cette année, dépose le Grand Poder parce qu'il faut pas qu'il prenne l'eau. Et le garagiste est converti. Il est converti à quoi ? Une divinité ?
Vous savez, les divinités qui processionnent pendant la Semaine Sainte, et d'ailleurs à d'autres moments de l'année, peuvent difficilement être rassemblées sous le nom de Dieu le Père, de Jésus-Christ, de la Vierge Marie, tel que le rapportent les évangiles. Ce sont des divinités, en particulier les vierges, qui ont ce qu'on peut appeler des territoires de grâce. C'est-à-dire que chacune d'elles a non seulement des fidèles, mais un territoire sur lequel elles règnent. Et donc, elles sont beaucoup plus proches de divinités de sociétés non catholiques, que l'on appelle malheureusement souvent de société primitive, mais elles sont beaucoup plus proches de ça que d'un catholicisme où on peut rassembler les différentes formes de ces divinités sous une figure orthodoxe.
Vous allez justement nous proposer une interprétation hétérodoxe. Antoinette Molinier, on a donc retenu que le crucifié est bien vieux, pour être le fils de cette femme bien jeune. On entendait, on est dans le climat de l'après-guerre civile, Clara Candiani expliquait que les Sévillans pleuraient comme le Christ doit souffrir. Vous osez, vous, une hypothèse ? Les Sévillans, il se passerait bien du crucifié pour approcher sensuellement la fiancée.
Oui, alors il faut observer les Sévillans là où ils font la fête, et pas seulement dans les processions plus ou moins officielles des confréries. Si vous rentrez dans un bar, vous voyez les gens qui font la fête pendant que le Christ passe devant les fenêtres du bar dans un état lamentable sur une croix avec du sang. Les gens trinquent dans le bar et mangent des tapas. Les processions de Semaine Sainte se caractérisent essentiellement par leur ambiguïté et leur ambivalence. On célèbre la douloureuse avec un tel entrain, avec des musiques d'une telle sensualité, que très vite on s'aperçoit que les Sévillans expriment essentiellement leur désir de la douloureuse, et qu'ils ont une sorte de... pas de, de goût pour les souffrances du supplicié rapportées dans les différents trônes qu'on appelle les passos, n'est-ce pas? Et cette ambiguïté, cette ambivalence, on la comprend lorsqu'on la met en rapport avec le fait que le Christ est appelé Nuestro Padre Jesús, notre Père Jésus. Jésus est un Père. Et là, la douloureuse se présente beaucoup plus en mère désirable, n'est-ce pas? Et oui, donc mais... nous avons là déjà des personnages que vous pouvez reconnaître... comme
Œdipien.
Œdipien, je ne osais pas le dire devant votre air sévère.
Non, parce que moi je veux vous rappeler à la réalité, Clara Candiani, mais nous sommes, je le rappelle, en 1949, 10 ans après la guerre civile en plein franquisme, insiste sur l'aspect austère quand même, ou du moins elle considère que la chair est triste.
Ces villes en ce moment n'est pas belle à voir. Le sol des rues où la cire des cierges a gouttelé pendant les heures est poisseux comme si on l'avait arrosé de miel. Ces villes qui évoquent d'habitude une femme parfumée qui sort de son bain avec ses rues propres, ses murs disparaissant sous les fleurs, ses patios susurrent les jets d'eau, ces villes n'est plus qu'une ribaude, échevelée, sale. Les rues sont jonchées de déchets, de crustacés, de vomissements, de papiers. Une puanteur de pourriture jaillit de partout à la fois. Des jeunes gens ivres chantent quelque chose ou des questions de la Macarena. Personne ce soir, sauf les veuves et les impotents, n'est resté chez soi. Toute la ville a découché. Les parents hébétés de fatigue prennent par la main, traînent par la main, littéralement, des enfants livides qui ont dormi dans leurs bras ou sur une chaise dans une bougnerie à quelconque. Dans le matin doré, les pénitents, la tunique relevée, la cagoule de travers, les pieds gonflés de fatigue, le gosier sec, errent à la recherche de la procession qu'ils ont quittée, ils ne savent plus où. Et puis alors partout, ce rythme obsédant, ces tambours des processions qui rentrent. Et tout autour, ces voix qui chantent n'importe quoi.
Elle va bientôt reprendre l'avion, Clara Candiani. Elle a deviné qu'il se passait quelque chose, comment vous dites ? D'Œdipien ?
C'est-à-dire que l'on peut envisager que la Semaine Sainte se présente comme une sorte de mise en scène du triangle édipien, dont on verra la résolution d'ailleurs dans les fêtes qui vont suivre, j'espère, tout à l'heure. Et finalement, les Sévillans nous invitent d'eux-mêmes à cette interprétation.
C'est-à-dire que quoi ? Il faut tuer Dieu le Père ?
Non, simplement que peut-être la Semaine Sainte, si vous voulez, il y a deux manières de la voir. D'une part, le récit orthodoxe de la Passion, mais d'autre part, on peut la voir comme une véritable ontogénèse psychique appliquée à la société.
C'est-à-dire qu'il y a un récit de l'inconscient sévillant qui se tresse avec le récit catholique ?
Absolument, c'est-à-dire que l'on peut distinguer dans la figure de Jésus supplicié et un meurtre du Père par les Sévillans, un véritable meurtre du Père, tant ils prennent goût, si vous voulez, à expliciter dans les moindres détails le sang, les clous, toute cette espèce d'érotique de la plaie, n'est-ce pas ? Et par ailleurs, dans cette douloureuse, sensuelle et extrêmement attirante, le désir de la mère. Et nous pouvons donc suggérer que d'une certaine manière, les Sévillans sont en train de vivre à travers leur procession, leur propre construction psychique.
Clara Candiani a repris l'avion. Elle a noté que la messe de la résurrection, Pie XII, va instituer en plus la vigile pascale le samedi soir. C'est complètement zappé par les Sévillans. C'est célébré par l'Église, mais enfin, c'est négligé par les gens parce que ils attendent la corrida. Et alors la corrida... vous en avez une interprétation qui permet de prolonger la précédente.
C'est-à-dire que je peux interpréter la corrida en général à travers cette corrida de résurrection. La corrida de résurrection inaugure la saison des corridas andalouses. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir à quel point les Sévillans font l'impasse sur la résurrection du Christ, puisqu'il y a une confrérie, effectivement, qui sort le dimanche matin, mais c'est une confrérie dont tout le monde se moque. qui date de 1983, qui est apparu avec les idées du Concile Vatican II et qui finalement n'a aucune importance pour eux puisque la Semaine Sainte est terminée. Et en fait, c'est c'est la résurrection du taureau qui va remplacer la résurrection du Christ, le taureau qui revient pour la prochaine saison. Et l'interprétation que j'en donne, évidemment, est tout à fait cohérente avec ce que nous avons vu tout à l'heure pour le conflit oedipien. C'est-à-dire que l'arrivée du taureau qui surgit dans l'arène, c'est tout simplement le retour du refoulé, n'est-ce pas? Le retour de la sexualité après le meurtre du père et le désir de la mère.
Muy buenas noches, son las 11 en punto y hoy estamos en una edición especial de este último tercio especial Resurrección y la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Lleno de no billetes, un cartel con toros de Juan Pedro Domecq, el maestro Juan Antonio Ruiz Espartaco, la alternativa de Borja Jiménez y el regreso a Sevilla, su Sevilla, de José Mari Manzanares. Este es el segundo toro de la tarde, puesto que evidentemente Borja Jiménez tomaba la alternativa. Un toro complicado, ¿eh? Un toro que me gusta que sobre la marcha, no habéis visto las imágenes, pero que sobre la marcha que lo vayáis descubriendo.
Canal Plus Taureau, c'est une émission concernant la corrida de la résurrection de l'an passé. Il n'y aura pas Espartacon cette année, mais Manzanares encore cette année. Si je vous ai bien compris, en sacrifiant le taureau, les hommes reçoivent en échange des capacités sexuelles et vont s'exprimer, par exemple pendant la feria coïncidente, des désirs qui avaient été contenus pendant la Semaine Sainte.
Il y a ça, effectivement, des désirs contenus, le retour du refoulé, et comment le torero assume dans sa chair, dans son corps, la sexualité dont on sait très bien que le taureau est le symbole dans toute la Méditerranée, n'est-ce pas? Mais il y a un autre aspect qui est au moins aussi important, et peut-être beaucoup plus, c'est le fait que le torero doit assurer ce qu'on appelle le temple, la tempérance. Il doit tempérer la fureur de cette bête sauvage qu'est le taureau. Et le temple, si vous voulez, est une espèce de métaphore de la tempérance sexuelle qui doit opérer, rendre possible le lien social. Donc la corrida de résurrection est comme une scénographie de la résolution de l'Œdipe et en même temps de la tempérance de la sexualité. Mais nous avons, il nous faut résoudre un autre problème que nous avions laissé de côté, qui est le désir de la douloureuse. Et nous avons un passage à l'acte de ce désir dans la fête qui va suivre la feria, dont nous n'avons pas le temps de parler.
Non, parce qu'il faut dire que cette fête, c'est la Pentecôte.
C'est la Pentecôte et nous avons les Sévillans et d'ailleurs de toute l'Espagne. On se rend en pèlerinage dans le sanctuaire de la Virgen del Rocío.
Alors qui on est dans le marais,
dans le delta du Guadalquivir. C'est une divinité qui ressemble à beaucoup d'égards à la Diane des Romains et surtout à Cybèle. On n'a pas le temps peut-être de développer ça ici, mais ça donne un peu une idée des racines très très profondes de cette divinité dans cette région.
Autrefois, elle possédait des chevaux sauvages.
Elle possédait des chevaux sauvages.
Et puis, elle est désirable, elle aussi.
Et puis surtout, c'est elle qui va initier les garçons qui la portent et qui la raptent, puisque les garçons vont sauter la grille qui la protège dans l'église, dans le sanctuaire, s'emparer de la Vierge, la rapter, écarter tous les ecclésiastiques. Évidemment, tout ça est une construction faite avec le concours de tous, et faire une procession avec une fureur tout à fait démonstrative
du
rapt de la mère.
Molinier, il faut ensuite consentir au renoncement, parce que cette vierge qu'on a raptée, on va la promener dans les différentes maisons de confrérie qui font la fête, mais elle va provoquer l'apaisement. Et puis, je laisse à nos auditeurs le soin de découvrir votre livre « La Passion selon Séville » aux éditions du CNRS. Vous racontez aussi la fin du cycle avec la fête Dieu. Et là, c'est un récit d'initiation de la société à elle-même que vous tentez, parce que c'est ça, la fin des fins de cette Semaine Sainte que vous nous avez invité à regarder autrement. Les reportages, c'était Clara Candiani, une divinité pour nous, à France Inter. La réalisation, c'était Jacques Sigal, à la technique Philippe Duclos, la préparation Franck Olivard, Frédéric Martin et Linka Negulesco.